Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Reportez-vous pour commencer le message d'aujourd'hui dans un chapitre très connu de la Bible, Matthieu 24. C'est le chapitre où le Christ annonce les signes qui vont précéder son retour. Dans le fond, qui décrivent la période où nous sommes actuellement. Matthieu 24, et nous allons lire le verset 32 et 33. Tout au long du chapitre, le Christ avait donné différents signes qui allaient précéder son retour. Verset 32 et 33, il est écrit ceci. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Voyez-vous, c'est un signe évident de la proximité de l'été. Verset 33. « De même, quand vous verrez toutes ces choses... » Tout ce qu'il vient de décrire auparavant. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Le titre de mon message aujourd'hui, « Dès que les feuilles poussent ». Vous savez, on arrive à la fin des 6000 années que Dieu a accordées aux êtres humains pour faire leurs expériences selon leur choix. Expériences malheureusement désastreuses, parce qu'ils se sont détournés de Dieu depuis le Jardin d'Éden pour justement choisir, eux, comment faire, quoi faire, quelle sorte de gouvernement bâtir, quelle sorte de système d'éducation, comment régler les problèmes, entre autres par les guerres et ainsi de suite. Alors, on voit le résultat maintenant des voies humaines. Et ces 6000 années-là arrivent à leur terme. Les jours de la création ont été de 7 jours. 6 jours... 6 millénaires accordés aux êtres humains pour faire leur expérience. Et le 7e jour, c'est le sabbat que Dieu a créé en se reposant, ce que nous célébrons aujourd'hui. Pour Dieu, le chiffre 7, ça veut dire complet, achevé, terminé. Il y a un principe à se rappeler. Vous pourrez aller voir vous-même, on ne se reportera pas, mais vous irez voir dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 8. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 8, l'apôtre Pierre dit ceci. « Devant le Seigneur, un jour... » est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Alors, il nous donne une clé ici pour comprendre un certain nombre de choses. On sait par là aussi que les jours de la création, qui, eux, ont duré 24 heures initialement, quand Dieu a recréé les choses, ont duré 24 heures, ça représente chacun un millénaire. Donc, les 6 premiers jours tirent à leur fin maintenant, les 6 premiers millénaires accordés aux êtres humains pour faire leur expérience, et on va bientôt entrer dans le 7e millénaire avec le retour de Christ. Celui-là sera le règne du Christ sur la terre. Bon. Alors, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. On peut voir ça sous 2 aspects. Premier aspect, c'est que Dieu est hors du temps. Dieu a créé l'univers physique, en même temps, il a créé l'espace, et en même temps, il a créé le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Alors, pour lui, ça n'existe pas. Un jour peut être comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, dans un sens comme dans l'autre, voyez-vous? Ça, c'est un des aspects qu'on peut voir dans cette déclaration-là. Le 2e aspect, c'est celui-ci. Quel jour est comme 1000 ans? C'est le 7e. Le jour qu'on célèbre aujourd'hui, le sabbat de Dieu, qui représente le 1000 ans de règne de Christ sur la terre qui vient bientôt. C'est le 7e jour, c'est le sabbat millénaire. Maintenant, je pose une autre question. Quel 1000 ans est comme un jour? C'est le règne millénaire du Christ sur la terre. Comme un jour, comme un des jours de la création que Dieu a fait au début, quand il s'est posé le jour du sabbat, qui représentait un 1000 ans de paix qui allait venir plus tard. Maintenant, je fais juste une petite précision pour votre information ici. Quand Pierre dit « un jour est comme 1000 ans » et « 1000 ans comme un jour », c'est que dans le grec original, le mot c'est « H-O-S » qui veut dire « environ ». Ça ne veut pas dire exactement là, 1000 ans, là, vous savez, qu'on peut compter les heures, il reste 5 heures, 4 heures, 3 heures, 60 minutes, 30 minutes. C'est environ. Il peut y avoir une petite marge, là. La même chose que vous trouvez dans l'épisode où le Christ a chassé une légion de démons qui possédait un homme qui vivait dans les cimetières. Là. On voit ça dans Marc 5, verset 13. Et vous savez, ce que le Christ a fait, Il a permis aux démons d'aller dans un troupeau de pourceaux, et ces pourceaux-là se sont jetés dans la mer. Et ça dit que les pourceaux étaient au nombre de HOS, environ 2000 pourceaux. Même chose, OK? Je vous donne cet exemple-là pour une petite précision additionnelle. Alors, toute la terre est sous le gouvernement de Satan depuis 6000 ans, depuis que nos premiers parents ont accepté, dans le fond, de le suivre, lui, avec les doutes qu'il avait créés dans leur esprit. Ils ont décidé eux-mêmes ce qui allait être bien et ce qui allait être mal. Ceux que Dieu appelle maintenant, parce qu'on sait qu'il n'appelle pas tout le monde, il va appeler tout le monde après le retour de Christ, mais ceux qu'il appelle maintenant peuvent et doivent être libérés de l'emprise de Satan. On doit commencer à vivre différemment d'avant. Ce qu'on faisait avant, ce qu'on aimait avant, mais qui était contraire aux lois de Dieu, on commence à le voir d'un autre œil. Et là, on dit, moi, je veux plaire à Dieu, donc je ne fais plus ces choses-là. Je change. C'est ça, de repentir. Et c'est ça, plaire à Dieu. Alors, les appelés peuvent et doivent être libérés de ce joug de Satan sur le monde. Et quand on est appelé, c'est fantastique, parce que Dieu nous donne accès à son unique et précieuse vérité. Il y a juste une vérité. Il peut y avoir plusieurs sortes d'erreurs, mais il y a juste une vérité. Le monde entier, bientôt, va être libéré de Satan et va être libéré de sa misère. Allez à Apocalypse 20, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Et on va lire les versets 4 à 6 qui décrivent ce qui vient bientôt, au moment du retour de Christ. Quand ceux qui ont appartenu à Christ au cours de l'histoire, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Ésaïe, les autres auparavant, M. Armstrong, et ainsi de suite, vont être ramenés à la vie. On voit ce qui va se passer. Apocalypse 20 et le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Ceux qui sont morts au cours de l'histoire, les martyrs. Il dit, je les ai vus revenir à la vie, comme on va voir tantôt. C'est à ce moment-là qu'ils vont être ressuscités. D'autres, à ce moment-là aussi, vont être ressuscités. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et on sait que cette bête-là, c'est au temps de la fin, à notre époque, qu'elle apparaît, elle est en train d'apparaître, et qu'elle fera en sorte que ceux qui vivent selon la vraie religion, qui ne veulent pas changer, seront éliminés. Alors, ceux-là vont mourir, bien sûr, mais Dieu dit qu'il va les ramener à la vie, tout de suite après, au retour de Christ. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont jamais été appelés, vos parents, vos grands-parents, les gens de toutes les nations, les milliards qui ont existé depuis le début, vont rester endormis jusqu'après le 1000 ans. Et là, il dit que lorsque ceux qui connaissent Dieu et qui lui appartenaient au cours de l'histoire vont être amenés à la vie, il dit à la fin du verset 5, c'est la première résurrection, ça. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors voici ici, on annonce le règne du Christ pendant 1000 ans. Vous savez, c'est intéressant de réaliser que ce livre-là ici, la Bible, c'est un livre unique. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais une en particulier, c'est que c'est un livre qui est écrit à partir du point de vue de Dieu. Ce n'est pas écrit à partir du point de vue d'un être humain. Tous les livres qui sont faits par des êtres humains dans les librairies, les bibliothèques, ce sont des livres qui sont faits à partir du point de vue des êtres humains. Dans leur domaine d'activité, que ce soit en sciences, en économie ou en littérature ou quoi que ce soit, c'est fait à partir du point de vue des êtres humains qui l'ont fait. Mais la Bible vient de Dieu et elle nous donne le point de vue unique de Dieu. Elle est inspirée par le Créateur. Elle n'a pas été inventée par des hommes. C'est frappant. Elle a été écrite, par contre, par des hommes qui, eux, ont été inspirés de Dieu et on le voit par le contenu de la Bible. Ces gens-là ont vécu selon les lois de Dieu, selon ce que nous sommes appelés à faire quand Dieu nous appelle actuellement. Ces gens-là ont vécu selon les lois de Dieu. Vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient les lois de Dieu, puis ils disaient « Changez, vivez selon ces lois-là si vous voulez vivre » et ainsi de suite. Et eux-mêmes en vivaient. Donc, on les retrouve à différentes époques. Et puis, parfois, il y a des millénaires entre ceux qui ont écrit les différents livres de la Bible. Mais ils disent la même chose. Et ils annoncent les mêmes lois, ils annoncent les mêmes événements futurs. Et pourtant, comme je vous dis, ils ont vécu souvent à des époques éloignées, parfois même très éloignées, et parfois dans des cultures fort différentes, et dans des situations aussi, parfois très différentes. Prenez le roi David, ça a été une situation, mais comparez-le à Jérémie, c'est une autre situation. Mais ces gens-là ont écrit concernant la même chose. Ils ont tous parlé du même plan de Dieu, ont donné les mêmes étapes de ce plan de Dieu-là, selon, comment je dirais, la même chronologie générale du plan de Dieu puis de l'histoire du monde. Ils ont parlé des mêmes lois spirituelles. Ça dit quelque chose. Ça prouve également l'inspiration unique de la Bible, le point de vue de Dieu. Et ils ont tous fourni les mêmes éléments historiques importants par rapport à ce que Dieu accomplit. Les mêmes prophéties ont été données, des fois dans des mots différents, par différents prophètes à différentes époques. En plus, ils ont tous annoncé les mêmes événements futurs. Ils ont tous annoncé les mêmes événements futurs. La même histoire humaine, autrement dit, écrite à l'avance. C'est ça, les prophéties. C'est pour ça que la Bible est un livre unique. Et à ceux que Dieu appelle maintenant, il est donné, pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on est plus brillant, pas parce qu'on a plus d'expérience en quoi que ce soit, pas du tout. Ça nous est donné par Dieu. Et on a vu dans la sermonnette tantôt que Dieu n'appelle pas les grands du monde, les grands cerveaux du monde. Même les grands cerveaux du monde ne sont pas arrivés à comprendre le plan de Dieu. J'ai travaillé dernièrement sur un message concernant Isaac Newton, par exemple. Isaac Newton a passé des années et des années de sa vie à essayer de comprendre le plan de Dieu. Il a vu beaucoup de choses, cet homme-là. Il a compris que le Saint-Esprit, c'était pas une trinité, que c'était la puissance de Dieu. Il a fait des recherches incroyables. Mais il n'est jamais arrivé à comprendre le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Pourtant, c'est un des grands cerveaux humains dans l'histoire, voyez-vous? Mais la Bible dit que Dieu appelle les gens simples, les gens ordinaires du monde, et il leur donne sa vérité précieuse. Ils ont le choix ensuite. Soit ils l'acceptent et ils se mettent à vivre selon les lois de Dieu, ou soit ils ne l'acceptent pas. Et à ce moment-là, ils vont continuer leur vie, et vont mourir, vont peut-être passer à travers la grande détresse et tout ça. Ils auront leur chance plus tard, mais ils manquent d'être participants de la première résurrection, la meilleure résurrection, qui permet à ceux-là qui vont être ressuscités alors de faire partie du gouvernement de Dieu, de la famille royale dirigeante, pour guérir les nations, pour les aider, pour les encourager. Alors, à nous, il est donné de voir le panorama de toute l'histoire humaine et en même temps de voir notre avenir. Je ne sais pas si on le réalise vraiment, ce qu'il y a de précieux dans ce qui nous est donné par rapport à ça. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à la fin de cette société où nous vivons? On sait qu'elle approche de sa fin, mais qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport aux dernières étapes? Et qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ce que nous devons faire, sachant ce qu'on sait, sachant où on est rendu dans le temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Un passage très important, Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, versets 28 et 29. Ça rejoint ce que nous avons vu tantôt. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est Christ qui parle toujours. Ici, Marc relate le même événement qu'on avait vu dans Matthieu. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, ce qu'on voit à ce moment-ci de l'année, on a remarqué ça, mon épouse et moi, en venant à l'Assemblée, c'est toute beauté de voir les petites feuilles apparaître aux arbres, les feuilles de lilas en particulier, les peupliers qui sortent très tôt le printemps. Alors, il dit, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que l'été est proche, verset 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc, il y a moyen de savoir. En d'autres termes, ce qu'on vient de lire ici, c'est qu'il y a moyen de savoir où on est et de savoir quoi faire. Maintenant, je vais vous montrer dans le même passage que le Christ nous indique qu'il y a trois choses à faire, trois choses importantes. Verset 32, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, » parlant de son retour, du retour de Christ, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » OK? Verset 33. Regardez ce qui est dit maintenant. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alors ici, le Christ nous donne trois choses à faire. Premièrement, prenez garde. On n'a pas expliqué souvent cette première directive que le Christ donne ici. Prenez garde. Ça veut dire quoi, prendre garde? Ça veut dire être averti. Soyez averti de ce qui vient, parce que Dieu nous l'a révélé. Soyez averti de ce qui vient. Soyez conscient de ce qui s'en vient. Et agissez en conséquence. Soyez sur vos gardes. Faites quelque chose par rapport à ce qui vous est donné de savoir des temps dans lesquels vous vivez. C'est ça que ça veut dire, prenez garde. Je vous donne un exemple. Supposons que vous montrez à un enfant à faire la cuisine, comme ma fille a fait avec ses garçons. Bon, lorsqu'ils ont des plats à faire au fourneau, on sait que c'est très chaud pour les sortir, alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle leur dit, n'oubliez pas de mettre des gants de fourneau pour sortir les plats parce qu'ils sont brûlants. C'est un avertissement, c'est une information qu'elle leur donne. Dans le fond, elle leur dit, prenez garde et faites ce qu'il faut pour ne pas vous brûler. Voyez-vous? Si quelqu'un, par exemple, d'un pays chaud vient habiter au Québec, il va se rendre compte à un moment donné, vers le mois de novembre, décembre, qu'on n'a pas un pays chaud et qu'il y a de la neige, qu'il y a de la glace, qu'il y a du verglas, qu'il y a tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, si la personne n'est pas habituée, elle a une voiture, supposons, elle n'est pas habituée de conduire en hiver, on va lui dire, prenez garde. Achetez-vous des pneus d'hiver. Parce qu'ici, les pneus d'été à l'année, oubliez ça. Vous ne passerez pas l'hiver. Et on va lui dire, bien, adaptez votre conduite aux routes québécoises. Et là, vous allez pouvoir aller où vous voulez au bon moment, puis avec sagesse, puis avec prudence. Alors, voyez-vous, ça, c'est de prendre garde, d'être rendu conscient de quelque chose et d'agir en conséquence. Alors, c'est ça que le Christ dit ici. Prenez garde, première chose. Donc, prenez garde à quoi? Prenez garde à ce que Dieu nous dit de faire. Prenez garde aux lois de Dieu. Considérez-les comme importantes et vivez-en pour être proche de Dieu. Prenez garde à ce que Dieu vous dit de faire par rapport à ce qui va se produire et qu'il vous révèle comme devant arriver. Ce que Dieu avait annoncé jusqu'à maintenant s'est produit. Certaines prophéties sont en train de se réaliser. D'autres vont bientôt éclater sur la scène mondiale. Alors, la première directive que le Christ donne, la première des trois choses à faire, c'est prendre garde. Deuxièmement, veiller. Veiller, c'est surveiller, bien sûr, les événements dans le monde en rapport avec la prophétie. Qu'est-ce qui est en train de se réaliser qui me dit qu'on avance dans le temps vers des étapes majeures? Ça, c'est de veiller, surveiller ce qui se passe. Et troisièmement, prier. Ça veut dire être proche de Dieu. Puis être proche de Dieu, ça comprend aussi prenez garde, parce que dans le prenez garde, ça veut dire étudier sa parole chaque jour, s'en nourrir, en être convaincu et en vivre. Et à ce moment-là, là, je peux marcher avec Dieu, être proche de lui, lui parler, le prier, lui demander de me donner la force de faire ce qu'il faut et d'avoir la force quand les choses vont devenir plus difficiles pour passer à travers ces choses-là. Donc, une vigilance consciente et alerte. Luc chapitre 21, juste un peu plus loin. Luc chapitre 21, on va lire le verset 34 à 36. Et regardez bien, vous allez reconnaître des choses que le Christ avait dit ailleurs. Luc 21, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même. Ah! Voyez-vous, prenez garde. On revient avec la même directive des trois que je vous ai donné tantôt. Prenez garde à vous-même. Et là, ici, il donne quelques exemples. À quoi on doit prendre garde, par exemple? Il ne donne pas toute la liste, mais il donne quelques exemples qui nous montrent qu'on doit observer les lois de Dieu et ne pas faire de compromis et ne pas agir contraire aux lois de Dieu. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Comment? Par les excès du manger. Et dans nos sociétés abondantes et même surabondantes pour le moment, il y a un risque de trop manger. Et en général, nous mangeons trop. Il y a des choses qu'on doit faire attention de ce côté-là. Mais faites attention de ne pas aller dans les excès de manger et les excès du boire aussi. On peut boire en modération, on peut bien manger, c'est vrai, mais avec équilibre. Et par les soucis de la vie, Voyez-vous, si les soucis de la vie accaparent mon attention, mes préoccupations, comprenez-vous que j'ai moins le temps de me préoccuper du royaume, de prier pour le royaume, d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Non, je m'inquiète des choses autour, puis j'essaye d'arranger les choses moi-même, plutôt que de prier Dieu, de me nourrir de sa parole, puis de lui faire confiance. C'est deux chemins tout à fait différents. Alors, je recommence. Le Christ dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour du retour de Christ, ne vienne sur vous à l'improviste, que vous ne soyez surpris, autrement dit, par ce jour-là. » Ça veut dire que vous ne soyez pas prêts lorsque ça va se produire. « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. » Tous! Tous! Verset 36, regardez donc. Le deuxième élément qu'on a vu tantôt, « Veillez donc! » Voyez-vous, le premier, « Prenez garde », verset 34, ici, ensuite, le Christ dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Et qu'est-ce que ça va faire si on met en pratique ces trois points-là? « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, c'est-à-dire vivant, devant le Fils de l'homme. » Voyez-vous comment c'est clair? Comment c'est encourageant en même temps? Et ça frappe sur le même clou, pour ainsi dire, les trois points excessivement importants. Prendre garde, veiller et prier. Et comme on voit ici, le Christ ajoute un autre élément. Il dit, si vous faites ça, vous allez être jugé digne d'échapper à la grande détresse. C'est ce qu'il dit ici. Vous allez être jugé digne d'avoir la protection de Dieu pour échapper à la grande détresse qui vient. Maintenant, là, je veux entrer dans le cœur du message d'aujourd'hui. Quelle feuille est-ce qu'on peut voir aux branches des arbres actuellement, symboliquement parlant, concernant les prophéties? Comment on peut reconnaître les temps dans lesquels nous sommes? Bien sûr, dans Matthieu 24, vous avez des éléments que le Christ donne tout au long de ce chapitre-là. Il parle des faux prophètes qui vont se multiplier au temps de la fin. Et ça se produit. Et on sait qu'il y a une grande religion qui va chapeauter l'ensemble des religions chrétiennes bientôt, qui va se produire sur la terre. Elle se dessine actuellement sous la forme de l'écuménisme, où tout le monde, il est beau, il est gentil, même si on ne pense pas la même chose, même si on ne croit pas la même chose, c'est d'être ensemble, en mettant ensemble ce qui peut nous rassembler, puis en laissant de côté ce qui nous différencie. Là, je parle des églises chrétiennes du monde qui veulent s'assembler dans l'écuménisme, auquel nous ne participons pas, ça se comprend, parce que l'Église de Dieu enseigne exactement ce que la Bible dit et vit selon ce que la Bible dit et non pas selon les dictats humains. Alors, les faux prophètes, guerre et bruit de guerre, épidémie, famine, tremblement de terre, le Christ a annoncé ces choses-là. Il y en a toujours eu, c'est vrai. Mais si vous remarquez, maintenant ça augmente de façon marquée et les choses vont aller de plus en plus vite jusqu'au jour où le Christ va ouvrir les sceaux du livre d'Apocalypse. Et là, ces mêmes choses-là vont aller à vitesse grand V. Soudainement, ça va enclencher, et là, ça va aller beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, quand les serviteurs de Dieu vont être amenés au lieu de sécurité, le monde va être bouleversé, le monde va être en douleur. Comme ça s'est produit pour l'Égypte, quand Israël a été sorti d'Égypte pour être protégé par Dieu. L'Égypte a été bouleversée, l'Égypte a été en douleur. Et quand les enfants de Dieu qui lui sont fidèles et qui sont zélés actuellement vont être amenés en protection selon sa promesse, le monde va entrer dans une turbulence majeure. Il y aura bien sûr, comme on voit dans Matthieu 24, verset 15, la fameuse abomination de la désolation établie en lieu saint. Ça, on sait que va se reproduire à ce moment-là une prophétie qui s'est d'abord réalisée sous Antioche Épiphane quand on a offert du sang de porc sur l'autel dans le temple à Jérusalem. Et on sait que ça va se reproduire encore. On sait que les sacrifices vont recommencer à Jérusalem par les Juifs. Et après ça, seront arrêtés après une période de temps qui est marquée dans la Bible. Et après ça, il y aura cette abomination-là de la désolation qui va marquer des étapes dans le plan de Dieu, mais je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Mais je vous parle de l'abomination de la désolation pour la raison suivante, c'est que déjà par rapport à ça, on voit des feuilles aux arbres par rapport à ces prophéties-là. Une de ces feuilles-là, c'est qu'actuellement, il y a une organisation religieuse juive en Israël qui font occasionnellement une parade vers le mont du Temple. ils n'y parviennent pas parce que les Arabes ne le permettent pas et ça les met en fusil quand ils le font, c'est qu'ils promènent ce qu'ils appellent la pierre angulaire du temple. Alors, la construction d'un temple à Jérusalem, ils l'ont dans l'esprit depuis longtemps, les choses sont prêtes de ce côté-là. On sait que ça ne veut pas dire qu'il y a un temple qui sera bâti totalement avant que les sacrifices commencent, parce que ça peut se faire simplement sur un autel à l'extérieur, comme ça s'est déjà fait dans l'Ancien Testament. Mais je vous donne ça pour que vous sachiez qu'il se passe des choses, qu'il y a des feuilles qui apparaissent aux arbres. Les Juifs sont prêts, sont fin prêts à procéder à des sacrifices, et même s'ils sont capables de le faire, à la construction d'un temple. Il y a aussi les vêtements sacrés pour faire les sacrifices. C'est déjà prêt. Il y a des livres qui sont parus là-dessus, on voit les photos, tout est prêt, tout est en fonction. Les ustensiles aussi pour offrir les animaux, tout est là, tout est prêt. Je vous dis ça parce que ce sont des petites feuilles aussi, qui sont aux arbres déjà, qui font partie de l'ensemble de la prophétie et qu'on va voir avancer avec le temps. Il y a aussi des feuilles qui sont apparues aux arbres depuis quelques années, mais qu'on oublie, mais qui sont là. 1948, il y a une feuille importante qui est apparue. C'est que les Juifs sont retournés en Palestine. Il y a un pays qui leur a été donné à ce moment-là, par l'ensemble des nations. OK? Alors, certains ont pensé que c'était le retour final qui est annoncé. Non, le retour final, ce sera après la Grande Détresse. Mais à ce moment-là, il fallait que les Juifs reviennent à Jérusalem pour accomplir la prophétie aussi. Parce que vous savez qu'au temps de la fin, il y aura la moitié de la ville qui ira en captivité. Ce sera la moitié juive. La moitié de la ville qui n'ira pas en captivité, c'est la moitié arabe. OK? Mais pour que ça se réalise, il fallait que les Juifs soient là. Alors, cette feuille-là, elle a poussé aux arbres en 1948. On l'oublie, mais ça fait partie de ça. Regardez Zacharie 12, une autre feuille qui s'est manifestée. Zacharie, chapitre 12, il y a quelques années. Zacharie, chapitre 12, c'est assez frappant. Zacharie, chapitre 12, c'est la guerre des six jours qui est arrivée en 1967. La guerre des six jours. Vous savez qu'Israël a dû se défendre à quelques reprises, même immédiatement après la fondation du pays moderne. Mais en 1967, Israël a été encore en danger. Et voyez ce qui s'est passé. C'était prophétisé, c'était annoncé. Zacharie 12, verset 6. « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda. » Juda, c'est les Juifs. « Je ferai des chefs de Juda. » Maintenant, j'arrête ici. Il ne dit pas « Je ferai des rois de Juda. » Il dit « Je ferai des chefs de Juda. » Donc, de l'administration publique, des chefs militaires, des chefs gouvernementaux. « Je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent, un feu, là, parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. » Si vous avez déjà vu brûler des gerbes sèches, ça brûle. Et il dit, je ferai des chefs de Juda, des chefs militaires, des chefs des armées, un feu, une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Quand vous regardez l'histoire de la guerre des six jours qui est arrivée en 1967, Israël a battu la Jordanie, l'Égypte, a battu la Syrie, les autres pays qui étaient contre elle à ce moment-là. Pourquoi la petite nation d'Israël a réussi ça? À cause de cette prophétie-là. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu a protégé Jérusalem. Il dit, Jérusalem va rester à sa place. Ça a été une feuille qui a poussé. Elle est là à l'arbre depuis déjà un bon bout de temps. Mais ça fait partie des signes qu'on doit considérer dans leur ensemble. Regardez le verset 3. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, au début, c'était les nations au Moyen-Orient qui se sont assemblées, mais ici, la prophétie concerne un temps futur, quand il dit que toutes les nations de la terre vont s'assembler contre Jérusalem. Ça, c'est à venir. Mais il fallait que les Juifs soient là, et il fallait que Jérusalem reste en place, comme on a vu dans le verset 12. Suite à la guerre des six jours. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que Jérusalem est une ville si importante? Écoutez, est-ce qu'il y a tellement de richesses naturelles autour de Jérusalem ou en dessous de Jérusalem? Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que c'est une ville si importante? Est-ce que Jérusalem est une capitale financière? Pas du tout. C'est rien à comparer à New York ou à Londres, la cité qu'on appelle capitale financière du monde, ces grandes villes-là. Pas du tout. C'est pas un grand centre bancaire. Il y a une raison fondamentale. C'est parce que cette toute petite parcelle de terre appartient au Dieu d'Abraham. Cette toute petite parcelle de terre appartient au Dieu d'Abraham. Et il va bientôt la reprendre. Quand le Christ va revenir, on voit dans Zacharie que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, qui est juste à côté de Jérusalem. Et il va établir son quartier général pour le gouvernement mondial à Jérusalem. Comprenez-vous pourquoi c'est si important, la ville de Jérusalem, même si elle n'a pas de richesse naturelle, même si ce n'est pas une grande capitale financière? C'est la ville de Dieu. C'est la ville de Dieu. Et c'est pour ça que Satan s'y oppose avec tant de férocité. Et c'est pourquoi beaucoup d'événements se préparent ou sont en préparation entourant Jérusalem. Entourant Jérusalem. Une autre feuille qu'on a vue récemment. Un autre signe de l'approche du retour de Christ. C'est le renversement des gouvernements de plusieurs nations au Moyen-Orient. On a vu ça dernièrement. Ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et ce qui se passe depuis ce temps-là dans ces pays-là. Et vous savez, les nations du Moyen-Orient semblent s'orienter vers la démocratie. Hein? On voit ça et tout le monde tape des mains en disant « Bravo, les États-Unis disent « Soyez démocratiques, ça va aller mieux. » Mais il y aura des petites surprises parce qu'il y a toute une autre réalité qui se dessine, même si ça peut prendre parfois la forme d'une approche démocratique. Parce que il y aura des dirigeants puissants qui vont s'établir et au-dessus d'eux autres, dans ces pays-là, il va y avoir ce que M. Armstrong a annoncé longtemps d'avance, un Mahdi, c'est-à-dire un chef charismatique, puissant dans le monde islamique, qui va réunir les factions islamiques, qui se combattent même entre eux autres actuellement. Mais eux autres aussi vont s'unir. De la même façon que l'écuménisme va avancer du côté de la fausse chrétienté, du côté des musulmans, il y aura unification sous un Mahdi, sous un chef charismatique pour un islam unifié. Il y a des sondages déjà qui laissent entrevoir ces choses-là. Il y a quelques pays importants qui souhaitent, par exemple, le retour du califat. Le califat, c'est un empire islamique unifié, comme ça a été dans le temps passé. Les gens commencent à dire... Ça devrait être beaucoup mieux que ce qu'on vit maintenant, parce qu'on a de la misère. On a beau renverser les dictateurs, on est encore dans la misère. Si on avait un califat, si on avait un empire islamique avec un dirigeant solide, là, ça changerait des choses. Les gens mettent leurs espoirs dans les choses humaines. C'est normal. Alors, il y a quelques pays importants qui souhaitent le retour d'un califat, selon les derniers sondages. Et selon les mêmes sondages, il y a aussi une majorité qui veulent, ça c'est surprenant, mais qui veulent le retour de la loi de la charia. Ça semble surprenant à des yeux d'occidentaux parce qu'on voit comme le barbarisme de la loi de la charia. Mais eux, pour les mêmes raisons que je vous ai dit, commencent à dire on serait mieux avec la charia et une dictature que ce qu'on a maintenant. Parce que là, on ne s'entend pas, il y a des guerres à plus finir, on a besoin de quelque chose de stable et de solide. Et parce que les gens de ces régions-là cherchent cette unification-là, dans le fond, on le voit par les sondages, c'est qu'à un moment donné, ils vont se doter d'un dirigeant, d'un Mahdi, que la Bible appelle, dans Daniel 11, le roi du Sud. Le roi du Sud. Une confédération de pays islamiques, avec à leur tête un chef religieux puissant. Charismatique aussi. Et ce chef-là va provoquer l'accomplissement des prophéties de Daniel 11. Parce qu'une fois que les nations islamiques seront unies sous un même dirigeant, le Mahdi, si vous voulez, dans un califat, à ce moment-là, ils vont s'en prendre à l'Europe qui sera unie à ce moment-là. Et l'Europe unie va fondre sur eux, comme la Bible dit dans Daniel 11, et va s'emparer d'eux, va les subjuguer. Autre feuille pendant ce temps-là qu'on voit se développer depuis un certain temps. M. Armstrong en a parlé des dizaines d'années. M. Meredith en parle depuis qu'il est en poste, même avant. C'est l'unification de l'Europe. Et là, plus que jamais, au moment où je vous parle, mai 2013, on voit que l'Europe se cherche. L'Europe devient instable. L'Europe entre dans une période d'austérité, je dirais peut-être sans comparaison. Si vous regardez ce qui se passe là-bas, seulement en Italie, par exemple, au cours de l'année 2012, j'ai regardé les chiffres pour vous donner une idée de l'état de la situation. Italie, 2012 seulement, 1 million de chômeurs de plus. 1 million de chômeurs de plus. Et la perte de 150 000 entreprises qui ont fait faillite, qui ont fermé leurs portes. Ça, c'est pas bon. C'est loin d'être bon. Quand on parle de taux de chômage, 27% autour de 27% Italie, Portugal, Espagne. Ça, c'est près d'un homme sur trois qui ne travaille pas. Donc, vous voyez monter les difficultés, les problèmes qui apparaissent. Je pense que je vais vous donner ça ici en passant. Ça vaut la peine. Parce que pendant ce temps-là, l'Europe, elle, se cherche. Ça, je vous ai dit tantôt, l'Europe se cherche. Ils ne sont pas encore cimentés pour former l'Europe unie du temps de la fin. Mais ce qu'on voit, c'est que ça les prépare. Je vais vous donner des citations ici du Der Spiegel, un journal important en Allemagne. Et là, l'Allemagne commence à se réveiller. Et dans les nouvelles prophétiques qu'on a eues il y a deux jours, le 2 mai 2013, il y a un article qui nous a été envoyé qui est intitulé « L'Allemagne forcée à diriger ». Et regardez comment les circonstances, entre guillemets, poussent l'Allemagne à prendre les commandes de l'Europe. Parce qu'elle ne peut plus compter sur ses partenaires et elle ne peut plus du tout compter sur les États-Unis. Février 2013, le Spiegel publiait ceci. Les politiques mondiales sont au point mort depuis quelques années. Les États-Unis ne voulant pas montrer leur leadership, tandis que l'Europe et les autres grandes puissances sont incapables de remplir le vide. Ça, c'est les Allemands qui écrivent ça. L'Europe n'est pas en position de fournir un leadership décisif et les États-Unis ne veulent plus le faire. Donc, ici, dans cet article-là, les Allemands constatent qu'il y a un grand vide, que les États-Unis ne le remplissent pas, qu'il y a une situation de confusion. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, vous allez plus loin dans le temps, plus proche de nous. 1er mai 2013, Der Spiegel encore, il est écrit ceci, et ça concerne l'Allemagne qui dit, qui semble frustrée, c'est-à-dire, par le manque de décisions concrètes de ses alliés dans les affaires du monde et des États-Unis. Et je cite, « Les avancées dans l'Union européenne sont au point mort, pour l'instant, car la France et l'Allemagne n'arrivent pas à s'entendre. » Et ça s'est envenimé dans les derniers jours, là même. Un an après le début du mandat de François Hollande, les relations franco-allemandes sont encore pires que ce que les pessimistes des deux pays avaient prédit. Ça se détériore tout le temps. Berlin et Paris sont en désaccord sur pratiquement tous les sujets dès qu'il s'agit de régler la crise actuelle. Complètement opposé. Alors, on voit les fissures apparaître dans ce qui semble être une certaine unification de l'Europe. Mais je pense que toutes les cartes vont être rebrassées complètement et va apparaître quelque chose de complètement différent qu'on a vu. Et là, ce sera la porte ouverte aux 10 rois qui vont donner leur puissance à la bête. Maintenant, je vous donne un article du Der Spiegel du 19 avril 2013, il y a quelques jours. L'Allemagne, on voit par ça que l'Allemagne s'affirme de plus en plus en prenant des décisions pour son avenir à elle, avec ou sans ses alliés. Autrement dit, elle commence à prendre la pôle. Je cite, « L'Allemagne est devenue le premier pays de l'OTAN à annoncer sa ferme intention de participer à une mission d'entraînement pour l'armée afghane. » Ils vont aller en Afghanistan, eux autres, parce que là, les Américains sortent de là. Après la fin de la mission de la FIAS en 2014, Berlin attendait de connaître la décision des États-Unis pour donner le ton. Mais Washington était incapable, ça c'est les Allemands qui écrivent ça, Washington était incapable de se décider et ayant repoussé la mise en place d'un plan détaillé à l'automne 2013, Berlin a opté pour une autre solution. M. Armstrong avait annoncé depuis longtemps et M. Meredith annonce depuis longtemps qu'une Allemagne forte va prendre le contrôle de l'Europe. La Bible décrit comment la bête européenne au temps de la fin, conduite par l'Allemagne, qui est appelée dans la Bible Assyrie, va dominer économiquement et militairement le monde. Ésaïe 10, versets 5 à 14, vous pourrez aller voir. Ésaïe 10, 5 à 14, Apocalypse 13, 1 à 4, Apocalypse 13, 1 à 4, Apocalypse 17, versets 12 à 14. Apocalypse 17, versets 12 à 14. Et si certains d'entre vous veulent poursuivre leur recherche, allez sur notre site internet mondedemain.org et retrouvez l'article « Un quatrième Reich » qui explique exactement en détail ce qui s'en vient. Alors tout ça, Je vous dis ça parce que tout ça prépare l'Europe finale des 10 nations dirigeantes, telle qu'on voit dans Apocalypse 17, verset 12. Ça dit ceci, « Les 10 cornes, 10 gouvernements, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête, pendant une courte période de temps avec la bête. » Malgré toutes ces difficultés qui apparaissent, qui augmentent et qui se multiplient, c'est bizarre ce qui se passe, parce que notre civilisation occidentale, elle vit encore des moments, ce que j'appellerais d'apparente normalité. D'apparente normalité. Juste avant que le monde n'entre en crise totale. Tout semble normal. Comme le Christ avait annoncé, vous savez, que, je ne me rappelle pas le passage biblique exact, mais ça dit ceci, qu'au temps de la fin, quand le Christ va revenir, ça va être comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants comme si rien n'était, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, c'est un peu la même chose. Les sociétés qui sont encore bien nanties vivent comme si tout était normal et on ne veut pas voir les problèmes. On dit ça, on a toujours trouvé des solutions, on va en trouver encore, ne sachant pas que cette fois-ci, il n'y en aura pas de solution. Que la solution va venir de Dieu après la grande détresse. Et avec la grande détresse, je devrais dire, parce que la grande détresse, ce n'est pas parce que Dieu déteste les êtres humains, il déteste ce qu'ils font. Mais Dieu veut les amener à leur sens, les ébranler suffisamment pour qu'ils comprennent qu'il existe un Dieu tout-puissant et que ses lois sont les seules lois qui peuvent apporter le bonheur, la prospérité, la paix, la santé et tout ce qui vient avec. Une autre feuille qu'on voit, c'est les guerres et les bruits de guerre. Ça continue. Vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud, qui est en situation très instable actuellement. Et là, vous voyez la faiblesse des Américains en même temps. Parce que eux qui ne voulaient pas négocier avec un État bandit, comme ils disaient, maintenant, ils sont prêts à aller leur parler, alors que la Corée les menace. Mais ils sont rendus sans force. C'est un tigre de papier, les États-Unis, maintenant. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'était prophétisé de cette façon-là. Alors, il y a tous les conflits en Afrique aussi. Et il y a d'autres conflits qui vont continuer à se développer. Mais comme je disais tantôt, c'est pas encore l'ouverture du deuxième sceau qu'on voit dans Apocalypse 6, versets 3 et 4. Le deuxième sceau, c'est le cheval roux qui enlève la paix de la terre, en général. C'est pas encore le temps. Mais si vous remarquez, il y a comme l'augmentation de douleur par rapport au moment de l'accouchement comme tel, si vous voulez. C'est des signes précurseurs. Le Christ avait parlé de tremblements de terre aussi. Quand vous faites une recherche, j'ai encore ça sur Internet, on peut avoir accès pour voir le nombre de tremblements de terre dans les lieux de la terre, et on voit que c'est en nette augmentation depuis les récentes années. Et le Christ a bien dit, c'est marqué dans Marc 13, verset 8, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Donc, ça ne veut pas dire seulement dans des lieux différents, mais dans des lieux où il n'y avait pas de tremblements de terre avant. Ça va se produire aussi parce que ça a été annoncé. Des tremblements de terre plus puissants, plus nombreux et dans des lieux habituels. Il y a certains de ces tremblements de terre-là qui sont des phénomènes simplement naturels, qui sont le résultat des plaques tectoniques qui se frappent ou d'activités souterraines. Mais il y a d'autres de ces tremblements de terre-là qui sont et qui seront provoqués par Dieu comme signe pour asseoir son autorité totale et pour aider les gens à réaliser qu'il existe et que c'est lui qui est en charge. Même s'il a laissé l'humanité aller pendant 6000 ans, vers la fin de ces 6000 ans, il va se manifester de plus en plus jusqu'à ce que personne ne puisse mettre en doute son existence ni sa puissance. Même chose pour une autre feuille aussi, celle des maladies, des épidémies. Ce que Luc 21:11 appelle les pestes. Luc 21:11, il parle des pestes. C'est le Christ qui a annoncé ces choses-là, qui allait venir au temps de la fin. Et là, on voit réapparaître la malaria, qui avait été maîtrisée pendant un bon bout de temps. On voit réapparaître la tuberculose. Et maintenant, ces nouvelles souches-là sont résistantes aux antibiotiques. C'est nouveau, c'est plus difficile, et ça risque d'être plus étendu. En Amérique, maladies transmises sexuellement. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est tellement frappant. Amérique, 250 millions d'habitants. Vous savez combien de personnes sur les 250 millions de personnes en Amérique sont atteintes de maladies transmises sexuellement? 110 millions. 110 millions, ça c'est les chiffres officiels des dernières recherches. Et ce qui se produit maintenant, dans les recherches qu'ils ont faites, c'est qu'il y a 20 millions de nouvelles infections par année. 20 millions de nouvelles infections par année. Alors, c'est une courbe exponentielle. Alors, c'est là où on en est rendu. En plus des bactéries résistantes aux médicaments. En plus aussi, comme de récentes études dans le domaine de la santé le montrent, d'une augmentation marquée des maladies mentales. C'est pas surprenant dans le genre de monde qu'on vit. Stressé, vite, tellement poussé à l'extrême de toute façon, violent, dangereux, où les gens sont inquiets. Plus de maladies mentales qu'avant. Mais c'est intéressant parce qu'il y a d'autres, et je donne ça entre parenthèses, j'ai vu d'autres études aussi où on dit que les gens qui croient en Dieu ont beaucoup moins de chances d'être atteints de maladies mentales que ceux qui ne croient pas à Dieu du tout. Il y a une logique là-dedans, parce que si on croit à un être supérieur, on peut comme se tourner vers un être supérieur aussi, vers quelqu'un qui peut nous aider. Sinon, si on ne croit pas en Dieu, on est seul avec nos problèmes. Alors, c'est intéressant de voir ces choses-là. Allons voir Deutéronome 28. Deutéronome, chapitre 28, ce qui était prophétisé. Les malédictions que Dieu avait annoncées à nos nations, aux nations israélites modernes, du temps de la fin. Deutéronome 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 22, même chapitre. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 27. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. Résistante aux traitements et aux antibiotiques. Verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. La folie, la maladie mentale. Ça avait été annoncé. Il dit, si vous vous détournez de mes lois, si vous abandonnez mes sabbats, si vous cessez d'observer mes sabbats, si vous cessez d'observer mes fêtes, si vous vous détournez de moi, voici ce qui va vous arriver dans les derniers temps. Monsieur Meredith en a parlé dans sa brochure « Les 14 signes annonçant le retour de Christ » et il en parle avec vraiment beaucoup de force. Il dit ceci, « Les États-Unis et la plupart des autres nations anglophones et bien sûr d'autres descendants modernes d'Israël vont également être touchés, entrent dans une période de calamité nationale ou plus exactement de châtiment national sans précédent. Dans les annales de l'humanité, mois après mois, année après année, de plus en plus de choses tourneront mal pour nous, d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu n'est plus avec nous, ce qu'on touche ne réussit pas. L'inverse est vrai. Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu nous donne de réussir des choses. Notre dette nationale augmentera. Notre immoralité et notre taux de criminalité augmenteront. Nos villes deviendront de moins en moins sûres, et on le voit, et de plus en plus agité par des gangs belliqueux de truands anarchistes et des émeutes raciales et aussi des émeutes pour la nourriture à cause des sécheresses menaçantes et des famines prophétisées pour secouer les nations. Sa description, elle est courte, mais elle est concise et forte. Et on voit ces choses-là autour de nous. C'était écrit. Dieu nous les révèle, il nous les montre à nous pour que nous prenions garde, que nous veillons et que nous prions. Maintenant, je veux vous dire quelque chose concernant la situation économique aussi. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on regarde là, les différents facteurs qu'on peut identifier facilement autour de nous et qui nous montrent qu'on est rendu loin dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Je reçois chaque mois un rapport d'un groupe d'analystes financiers européens qui se penche sur les grandes tendances mondiales. Et ces hommes-là ont annoncé d'avance, par exemple, ce qui est arrivé en 2008, l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, puis ce qui en est suivi, tout ça. C'est des gens qui me semblent vraiment très sérieux. Jusqu'à date, leurs prévisions ont été passablement justes. Et voici ce qu'ils disent dans le dernier rapport que j'ai reçu en date du 15 avril. Ils disent ceci. « Notre équipe observe de près l'inhabituelle coïncidence de l'effondrement de tous les indicateurs en même temps. » Ils disent, ce qu'on vient de voir, on ne l'a jamais vu. Tous les indicateurs financiers en même temps disent des choses incompréhensibles. L'effondrement de tous les indicateurs, bourse européenne, américaine, asiatique, matières premières et même et surtout l'or. Si un effondrement du type de celui de 2008 est bien en train de se mettre en place, c'est ce qu'ils pensent. La question est D'où viendront les milliers de milliards qui ont rattrapé in extremis le système financier en 2009? En 2009, on a trouvé des milliards et des milliards pour éponger des choses, pour faire des infrastructures, pour faire travailler du monde, mais tout ça, c'était artificiel. C'était sur de l'argent emprunté. C'est pour ça qu'ils disent ici, on est rendu à la même situation, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? Selon la méthode d'anticipation politique, la datation des ruptures s'effectue en identifiant les périodes à haut risque, lors desquelles la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que dans une situation comme celle-là, le moindre élément peut mettre le feu à l'ensemble de la bâtisse structurelle économique mondiale. La période actuelle est un exemple typique de ça, où se conjugue un nombre impressionnant de facteurs explosifs. Nouvelle bulle financière gonflée par les injections massives d'argent public. On a gonflé artificiellement l'argent en circulation. D'ailleurs, les États-Unis impriment de l'argent comme c'est pas possible, comme l'Allemagne faisait avant la Deuxième Guerre mondiale, à tel point qu'à un moment donné, l'argent n'avait plus aucune valeur tellement il y avait de billets en circulation. C'est ce que les États-Unis ont découvert comme formule miracle. S'ils avaient trouvé de se tourner vers Dieu, ça aurait été différent. Mais maintenant, ils creusent leur tombe, pour ainsi dire. Instabilité géopolitique mondiale. Guerre des monnaies. Début de guerre politique contre le terrorisme financier. Et regardez comment on met à jour tous les scandales financiers de blanchiment d'argent, de paradis fiscaux et tout ça. C'est ce qu'ils disent ici. Ça arrive en même temps. Tous ces facteurs-là arrivent en même temps. Crise politique en Europe. Chômage de masse et économie réelle dégradée, sans compter, bien sûr, l'endettement public qui atteint des sommets. Dans une telle coïncidence de facteurs, je vous rappelle que M. Meredith a dit quelques fois dernièrement, je n'ai jamais vu autant de facteurs de prophéties bibliques se réaliser au même moment. Eux autres ne connaissent pas la Bible, mais ils disent, on n'a jamais vu autant de facteurs économiques négatifs frapper en même temps dans la même direction. Alors, il dit, dans une telle coïncidence de facteurs, ça relève du miracle que cette situation perdure. Autrement dit, c'est par miracle que ça n'a pas éclaté encore. Mais le miracle, on sait d'où il vient. C'est que quand ce sera le temps de Dieu, quand il va enlever le cordon, ça va déclencher. Et c'est pour ça que la Bible parle d'une soudaineté des événements à un moment donné aussi. Tout semble normal. Vous savez, c'est comme un mur qui, depuis quelques années, commence à gonfler vers l'extérieur. Vous avez un mur de briques, il est de plus en plus gonflé vers l'extérieur. Il y a des fissures dedans, ça reste là. Et il ne semble rien se passer jusqu'au jour où, à un moment donné, quelque chose se produit, là, il tombe. Mais avant ça, il n'a pas tombé. Non, il est là. Tout semble normal. L'apparente normalité des choses. C'est fort. Il dit, la crise à Chypre est également une bonne piqûre de rappel. Les remous générés par cette île minuscule, pourtant, hors du cœur financier mondial qu'est la zone dollar, laisse augurer ce qu'il adviendra quand lâchera le nœud central du système. Car tandis que petit à petit l'Europe panse laborieusement ses plaies, au contraire, la zone US s'enfonce toujours plus dans les méthodes responsables de la crise. Comme si, regardez l'exemple, et c'est ce que les Américains font, comme si le fait de choisir un plongeoir plus élevé au-dessus d'une piscine sans eau, allait rendre le choc moins douloureux quand on va tomber au fond. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça fort comme image. Il y a plus d'eau dans la piscine, on ne peut pas sauter à ce niveau-là, on va monter plus haut et là, le problème va être réglé. Mais non, c'est pire. C'est exactement ce que ces gens-là disent ici. Et on nous dit, le Canada est bien mal en point lui aussi avec une énorme bulle immobilière. Et on nous en parle depuis quelques mois. Des statistiques de l'emploi qui déçoivent. Mais en réalité, la bulle ultime, c'est le dollar. Ça, c'est une des clés majeures. Toute la suprématie des États-Unis repose sur la domination du dollar et toute leur politique étrangère a pour but de préserver à tout prix cette domination. Or, ils n'en ont plus la possibilité. C'est une question de temps avant que tout ça change. Alors, une des feuilles majeures, c'est l'endettement sans issue de nos pays. Pas juste les États-Unis. Nous, ici au Canada, que ce soit la Grande-Bretagne, qui est dans la dèche, pour ainsi dire, qui est techniquement en faillite, nos pays israélites, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Les États-Unis ont été longtemps le moteur de l'économie mondiale, mais ça change. Vous savez, quel est le montant de la dette des États-Unis per capita? Comment chaque citoyen des États-Unis devrait payer d'un coup pour effacer la dette? C'est 45 000 $ chacun, chacun, là, dans une... Vous avez une famille de cinq, mais ça vous coûterait un quart de milliard, un quart de million pour donner à l'État. Il faudrait que tous les Américains, les 250 millions d'Américains, donnent chacun 45 000 $ pour payer la dette tout d'un coup. Ça donne une idée de la grandeur. Je vous donne ces chiffres-là pour que vous réalisiez que les feuilles sont aux arbres. Que les feuilles sont aux arbres et qu'elles sont là de façon importante. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la situation des États-Unis, là, est pire que celle de la Grèce. On a vu la Grèce, on a dit, oh, c'est un pays quasiment du tiers-monde, un pays, bon, ils n'ont pas su administrer leurs affaires ou quoi que ce soit. Pire que la Grèce, l'endettement du pays par habitant, vous savez ce que c'est? C'est 39 000 $ En Grèce, les habitants sont endettés chacun de 39 000 $ alors qu'aux États-Unis, ils sont endettés chacun de 45 000 $ 18 ou 19 % de plus. Et on dit la Grèce est en faillite technique. Les États-Unis sont en faillite technique. C'est juste une question de temps. Et un exemple pour mieux comprendre encore la dette des États-Unis. Ramenons la situation des États-Unis à la situation d'une famille. On va voir dans quelle situation d'endettement la famille se trouve. La situation des États-Unis, c'est comme une famille qui aurait comme revenu annuel 22 000 $ Revenu annuel, 22 000 $ Dépenses annuelles de cette même famille-là, 38 000 $ OK? Mais pas juste une année. Tous les ans. Tous les ans, la famille gagne 22 000 et elle dépense 38 000. Qu'est-ce qu'elle fait, cette famille-là? Comme les États-Unis font, le 16 000 $ de différence, ils le mettent sur leur carte de crédit. Ça, c'est brillant. C'est comme si ça coûtait pas cher, la carte de crédit. Ils mettent ça sur une carte de crédit. Mais c'est pas tout. Pour avoir un portrait complet de la situation, il y avait déjà une carte de crédit. Il y avait déjà une carte de crédit, la famille en question. 22 000 de revenus, 38 000 de dépenses, 16 000 de déficit chaque année, qu'on met sur une carte de crédit qui est déjà remplie à 142 000 $ La famille qui gagne 22 000, là, elle a 142 000 $ sur ses cartes de crédit. Moi, l'autre jour, j'ai resté surpris. Je paye toujours ma carte de crédit à la fin de chaque mois. Je n'ai jamais payé une cent d'intérêt. Mais je pense que j'avais autour de 2 000 quelque chose à payer. Il y avait eu des achats en particulier. Et là-dedans, puis maintenant, on nous dit qu'on peut payer juste le montant minimum, vous savez. Puis ils nous disent combien de temps que ça va durer, la souffrance. Alors, mon 2 000 ou à peu près, si je donnais juste le montant minimum, quelques dizaines de dollars, ça me prenait entre 18 et 22 ans pour payer mon 2 000. Calculez-les, là. C'est parce que je le donne complètement en intérêt pour soutenir les banques. Avant que je paye mon capital, ça prend du temps. Alors, imaginez la pauvre famille qui a 142 000 sur sa carte de crédit puis qui s'endette de 16 000 par année par-dessus. Pensez-vous que ça peut durer longtemps? Je pense que vous avez la réponse, absolument. Et, vous savez, encore une autre image pour vous aider. Comment ça a pris de temps aux États-Unis pour atteindre leur premier trillion d'endettement? Premier trillion de dollars américains d'endettement. Ça leur a pris 200 ans. Au cours des 200 premières années, là, ils ont atteint un trillion. Vous savez comment ça prend de temps maintenant aux États-Unis pour ajouter un autre trillion sur leur carte de crédit d'endettement? 10 mois. À peu près 10 mois, plus ou moins 10 mois. Je vous dis ça pour que vous voyez à quelle vitesse ça s'en va vers le mur, là. À quelle vitesse on s'en va vers un éclatement avant bien des années. Le pays est en faillite, techniquement. Les États sont en faillite. Les villes sont en faillite. Et même, effectivement, prenez simplement la ville de Détroit. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais la ville de Détroit, ville de l'automobile par excellence, ville très riche, il y a très peu d'années encore. Il y avait les grands constructeurs automobiles étaient installés là. Le conseil de ville ne peut plus fonctionner. Le gouvernement a dû nommer un administrateur pour la ville en question parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. On étudie maintenant le fait de couper les pensions des fonctionnaires, les retraites et toutes ces choses-là, et ça va passer dans le moulin, soyez assurés. Déjà, les pompiers qui sont en fonction voient leur salaire coupé de 50 % Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, ils viennent de couper les salaires des pompiers de 50 % Dans plusieurs quartiers de la ville, la police ne va même plus. Même si les gens appellent, quoi qu'il arrive, la police ne se déplace même plus dans certains quartiers de la ville. Il y a 121 écoles à Détroit qui viennent de fermer leurs portes. Fermer, là. Fermer leurs portes. Il y a un quart des maisons de la grande ville de Détroit qui ont été abandonnées. Maisons vides, là. Abandonnées. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fui la ville, qui ont quitté la ville. Ça, c'est une image de la grande Amérique, là où elle est rendue. Et c'est seulement un exemple. L'Amérique, elle est sous malédiction. Elle est sous malédiction. Et en plus, je n'irai pas plus loin, vous pourrez aller voir vous-même dans Deutéronome 28, versets 16 et 17. Tu seras maudit dans la ville, voyez-vous, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Et vous savez une chose, j'ai regardé les chiffres. Les États-Unis, maintenant, importent plus de nourriture qu'ils n'en produisent. Les États-Unis importent plus de nourriture qu'ils n'en produisent. Et vous voyez, depuis quelques années, l'augmentation des sécheresses majeures, des inondations majeures, des ouragans majeurs qui détruisent. Les Américains, pour beaucoup, dans les fermes, ont vendu leurs troupeaux l'hiver dernier parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir. Alors, si on ne fabrique pas en retour des fermiers et des éleveurs d'animaux dans quelques mois, c'est pas possible. Alors, on s'en va vers un mur qui est là, juste devant nous. Les transgressions sexuelles de toutes sortes augmentent. La fornication, l'homosexualité, l'adultère. Et on présente même comme étant bien ces choses-là. Remarquez bien, c'est frappant. On voit ça dans les journaux, on voit ça même dans les nouvelles parfois, dans la façon dont c'est annoncé ces choses-là. C'est comme si ça allait de soi. C'est leur choix. Il faut respecter le choix. Comme s'il n'y avait pas de loi. C'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas de loi. C'est que pour eux, ils ne veulent pas avoir de loi. Qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, le taux des naissances diminue. Il y a moins de gens pour soutenir la pyramide économique, donc pour payer les pensions de ceux qui sont dans leur retraite. C'est ça qui se passe aussi. On doit faire venir les travailleurs immigrés, les immigrants, et ça crée toutes sortes de problèmes. Ça, c'est juste un aspect. Foyer brisé, divorce, famille monoparentale. Et quand vous avez une famille monoparentale, vous avez presque automatiquement, je dirais, dans 95 % des cas, des conditions de vie précaires. Pauvreté et les enfants abandonnés, pour ainsi dire, comme à eux-mêmes, avec des comportements parfois agressifs, beaucoup de difficultés à être intégrés dans la société et d'autres problèmes qui viennent par la suite là-dedans. C'est terrible. Des enfants abandonnés, des enfants illégitimes. Avortement, la même chose. Avortement, la même chose. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une grossesse sur cinq qui finit actuellement par un avortement. Une grossesse sur cinq. Ça, c'est près de 20 % des grossesses qui finissent par un avortement. Si on met des chiffres là-dessus, c'est 750 000 à 1 million d'enfants par année qui sont ainsi assassinés par avortement aux États-Unis. Par année, OK? 750 000 à 1 million par année. Je mets ça en perspective. Vous avez vu tomber les deux tours jumelles à New York, 11 septembre 2001. Combien il y a eu de morts à ce moment-là? 3 000. 3 000 dans cette journée-là. Et l'Amérique, comme le monde entier, était en désarroi, n'arrivait pas à réaliser cette chose-là, comment c'était terrible. Mais vous savez qu'en termes d'avortement, les chiffres que je vous ai donnés, c'est 3 000 avortements par jour. 3 000 avortements par jour. 3 000 meurtres de petits-enfants par jour. En plus de vivre, comme vous le savez très bien, dans une culture de la corruption. Ça sort au grand jour, en particulier au Québec, ici, avec la commission Charbonneau. La culture de la corruption, elle est largement répandue. Et ça touche à peu près toutes les sphères de la société, des grandes entreprises aux petites, des niveaux de gouvernement municipaux ou provinciaux ou fédéraux. Et ça sort, et ça sort. Et il y aura poursuite sur poursuite, mais tout va revenir comme avant. Parce qu'on a déjà passé des lois pour empêcher ces choses-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé des moyens de les contourner. Ça, c'est la façon humaine de régler les problèmes. Ésaïe, chapitre 1. Ça vaut la peine qu'on aille ça. On aille voir ça. Ésaïe, chapitre 1. On vit dans une culture très étendue de corruption. Ésaïe, chapitre 1. Et regardez le verset 5. Dieu dit, « Quel châtiment nouveau vous infligez? » Déjà, on a des bouleversements climatiques, déjà on a de grands tremblements de terre, déjà on a des problèmes financiers majeurs, des problèmes de maladies qui se multiplient. Dieu dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Et c'est ce qu'on voit dans les tribunaux maintenant, la tête entière est malade. Et souvent, les maires sont obligés de démissionner des municipalités pour se retrouver devant les cours de justice. C'est régulier, et on va le voir de plus en plus. La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Oui, parce que toute la société en souffre. Et ceux qui sont administrés par ces gens-là se disent à un moment donné, ceux qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas mettre ses lois automatiquement en pratique, vont dire, ben eux le font, pourquoi moi je ne le ferai pas? Alors cette culture-là se répand à tous les niveaux. C'est ça. Le gouvernement nous vole, pourquoi je ne volerais pas le gouvernement? Alors que nous, le Christ nous a enseigné de respecter, rend à César ce qui est à César et rend à Dieu ce qui est à Dieu. On doit être honnête dans nos paiements d'impôts et toutes ces choses-là, malgré qu'il y a beaucoup de corruption autour. Regardez le verset 23 du même Ésaïe 1, verset 23. « Tes chefs, tes dirigeants, sont rebelles et complices de voleurs. » C'est assez clair. On pourrait citer ça à la commission Charbonneau, qui est la commission au Québec qui enquête sur la corruption dans l'octroi des contrats dans le domaine de la construction. Entre autres, il y a 20 % qui allaient à la mafia et beaucoup de un grand pourcentage qui allait aux organisateurs politiques pour les élections municipales, les élections des gouvernements provinciaux et ainsi de suite. Alors, il dit « Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs. » C'est clair. « Tous aiment les présents. » Oh, regardez ça. « Tous aiment avoir les enveloppes brunes. » Tous aiment avoir les choses qui rentrent comme ça, les ristounes. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit se produire autour de nous dans nos sociétés, dans les entreprises, au niveau des gouvernements et ainsi de suite. Et regardez après ce qu'il dit. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Est-ce que c'est le petit qui compte, celui qui a besoin? Non. C'est moi-même, acquérir, prendre. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de s'enrichir le plus possible. Paul avait bien dit, hein? Vous pourrez aller voir dans 2 Timothée 3, verset 1 à 4. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Paul avait dit, « Sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, après, il décrit l'attitude des gens au temps de la fin. Il dit, « Les hommes seront égoïstes. » Il commence par dire égoïste. Et le deuxième point, ami de l'argent. Ami de l'argent. C'est exactement ce qu'on voit. Deutéronome 28. On était dans ce chapitre-là il n'y a pas longtemps. Deutéronome chapitre 28. Et on va lire le verset 20. Verset 20. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. » Verset 25. « L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. » Vous savez, les États-Unis ont commencé à devoir fuir. Et les États-Unis sont de plus en plus faibles au point de vue militaire. Ils ont de la difficulté maintenant à renouveler leur équipement. Et leur armée est de plus en plus faible. Et vous savez, vous vous rappelez, il y a 8 ans en Irak, ils ont attaqué l'Irak, supposément pour trouver des armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées. Il y a eu une guerre horrible qui s'est passée. Ça a coûté 4 400 vies humaines dans l'armée américaine. Cette opération-là. Et ça a coûté $1 trillion. Ça a coûté $1 trillion à l'économie américaine. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin de ça? Les Américains sont sortis sans avoir rien réglé. Après ça, ils se sont plantés en Afghanistan. Sans se rappeler que les Russes avaient été là pendant 10 ans. Russes, pays voisins, armée puissante de la région. Ils se sont cassés les dents là. Ils ont sorti de peine et de misère de là. Ils ont abandonné leur équipement militaire en arrière. Non, les Américains sont allés. Ils ont ramassé un certain nombre d'alliés. Ils sont allés là-bas. Et là, ils commencent à se retirer de là. Ça va finir en 2014. De grandes pertes encore. Rien de réglé. Et vous voulez voir une idée de l'ampleur de cet échec-là? C'est pas un petit échec-là. Vous avez la puissante armée américaine avec des bateaux, des porte-avions, avec une puissance de frappe aérienne fantastique, avec les armements les plus sophistiqués, les plus modernes. Ils sont sortis de là, ils sont en train de sortir de là en laissant un pays en ruine. Et vous savez à quelle sorte d'ennemis ils ont fait face? À des hommes dans les cavernes qui n'avaient pas d'avion, qui n'avaient pas de bateau, qui avaient seulement des armes de main et des lance-missiles. C'est tout ce qu'il y avait. Qui vivent cachés dans les montagnes. La grosse armée américaine, c'est ça qui s'est réalisé ici. La puissante armée américaine n'a pas pu vaincre ces gens-là qui ne faisaient pas le poids face à l'armée américaine en réalité. Il y avait de simples fusils, mais ils étaient cachés dans des cavernes et dans des montagnes. L'Éternel les a fait battre devant leurs ennemis. Vous savez, les feuilles de la parabole du Christ sont de plus en plus présentes et visibles. Elles indiquent clairement l'intensification prochaine des grands bouleversements mondiaux qui ont été annoncés. Mais en même temps, c'est fantastique, parce que ça annonce le retour du Christ. Et le Christ a dit, quand vous allez voir ces choses-là arriver, levez vos têtes, parce que vous savez que votre délivrance, elle est proche. On pourrait identifier plusieurs autres signes. Je vous en donne un seul en terminant. Vous pourrez aller le voir dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. C'est le Christ qui a dit ça, dans Matthieu 24, verset 14. La bonne nouvelle du retour de Christ, de l'établissement de son gouvernement sur la terre, sera prêchée dans le monde entier. C'était pas possible avant. Maintenant, on peut le faire. Pour servir de témoignage, non pas pour convertir les nations, mais pour servir de témoignage à toutes les nations. C'était pas possible avant, mais maintenant, avec les moyens de communication modernes, nous le faisons. Il dit après, alors viendra la fin. Donc, ce sera un signe, une feuille clairement évidente qu'on approche du retour de Christ. On prêche un peu partout, sur tous les continents, oui, la toute petite Église de Dieu, et on va rester petit jusqu'à la fin. C'est le petit troupeau dont parle la Bible. Mais regardez, grâce à Internet, Dieu nous a fourni un moyen superbe d'annoncer l'Évangile. On annonce aujourd'hui l'Évangile dans tous les pays du monde, par Internet, sauf deux endroits. La Corée du Nord, où on ne peut pas entrer, et une toute petite principauté, un petit royaume indépendant au nord de l'Italie. Ces deux seuls endroits-là où on ne pénètre pas encore. Dieu a donné à ses appelés de savoir ces choses-là, les signes dont on a parlé, de voir ces signes-là des temps où nous vivons, puis de les comprendre aussi. Mais en même temps, ça vient avec une responsabilité. On a la responsabilité d'agir en conséquence. Vous vous rappelez les trois principes que le Christ nous a donnés? Prendre garde, étudier les voies de Dieu, puis en vivre. Veiller, regarder les événements mondiaux par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, et prier, marcher avec Dieu, lui parler, s'en remettre à lui, lui demander son aide. Et en faisant ça, on se prépare pour avoir la force de traverser ce qui vient, pour être jugé digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.